En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 7 janvier 2008, Jean Caille, directeur de recherche au CNRS, a fait une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle s'intitulait « Droit et architecture, savoir de la différence, art de la distance ». Cette année 2008 sera consacrée au thème « Le droit vu d'ailleurs » sous la présidence de François Terret. Retrouvons-le en salle des séances.
Il ne se peut trouver, pour parler des liens entre le droit et l'architecture, de cadre plus convenable que celui que m'offre aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques, là où la science des hommes et l'élégance de la pierre se conjuguent pour former l'institution par excellence, je veux dire l'Institut. Vitruve, au début de son fameux traité, le De Architectura, recommande instamment à l'architecte de bien connaître le droit, de posséder, je cite Vitruve, la jurisprudence et les coutumes des lieux pour la construction des murs mitoyens, des gouttières et des égouts, mais aussi pour ménager la vue au bâtiment ou organiser l'écoulement des eaux. Afin, continue Vitruve, qu'avant de commencer un édifice, l'architecte soit en mesure d'éviter aux propriétaires les innombrables procès qu'il serait susceptible d'essuyer une fois l'ouvrage achevé. De fait, l'architecture est certainement, de tous les beaux-arts, le seul à revêtir spontanément une dimension juridique et à réclamer de ses praticiens une connaissance solide du droit. Cela était vrai du temps de Vitruve et cela le reste plus que jamais aujourd'hui. Assurément, il serait aisé de montrer la familiarité, la sympathie même que manifeste le droit de la construction ou de l'urbanisme entre l'architecture et le droit. De montrer, par exemple, combien les prescriptions juridiques influencent aussi bien la conception du projet architectural que la forme urbaine et par là même conditionnent en partie la pratique artistique. Ou de montrer, inversement, l'influence de la pratique architecturale sur le droit. De souligner, par exemple, l'importance du chantier du château de Versailles dans la mise en place de ce qui deviendra plus tard le code des travaux publics. Cela dit, je ne parlerai pas du droit de la construction ou de l'urbanisme pour deux raisons. D'une part, parce que ce type de rapport entre le droit et la technique n'est pas spécifique à l'architecture. Il est bien d'autres domaines qui influent sur le droit, mais aussi en subissent l'influence. Songeons aux techniques du vivant qui entretiennent un lien non moins étroit avec le droit, mais dont l'objet et les problématiques sont par ailleurs aux antipodes de l'architecture. Plus encore, il est clair que sous sa forme normative, le droit est perçu par l'architecte comme une contrainte, comme une donnée extérieure et malvenue, et non pas comme une dimension essentielle de son art, ainsi que je vais essayer de le démontrer. Alberti, par exemple, jugeait préférable de construire à la campagne, à l'abri des contraintes et des servitudes de voisinage qu'impose la construction urbaine. Il parle à cet égard d'une villa liberior, autrement dit, d'une liberté de la conception architecturale que le droit partout ailleurs menace. La familiarité entre le droit et l'architecture finit ainsi par tourner au conflit. C'est pourquoi je propose une autre voie que le droit de la construction pour mettre en valeur les liens entre l'architecture et le droit. Je défends en effet l'idée qu'il existe une gémellité entre le droit et l'architecture, c'est-à-dire que ces deux disciplines ont même principe et même finalité. Ce sont tous deux des savoirs de la différence et des arts de la distance, au service non seulement de la civilisation, de l'organisation de la cité, mais plus fondamentalement encore de l'hominisation de l'institution de l'homme en tant qu'homme. Avant de poursuivre, je voudrais immédiatement fixer les limites de mon propos. Je ne prétends pas ici parler de toute l'architecture, ni moins encore du droit dans son foisonnement actuel. Cette co-appartenance essentielle du droit et de l'architecture concerne au premier chef, d'une part, l'architecture à l'antique, celle que décrit Vitruve, et d'autre part, le droit romain. Il est vrai que cette architecture à l'antique, rénovée et magnifiée par l'âge humaniste et classique, a profondément marqué à la fois notre paysage et notre sensibilité jusqu'au début du XXe siècle. Et mieux encore, que le vitruvianisme, dans ce qu'il a de plus abstrait et de plus fondamental, reste toujours vivant dans le projet architectural tel qu'il s'enseigne aujourd'hui. Il est vrai aussi que l'esprit du droit romain n'a pas totalement déserté la fabrique du droit dans nos sociétés contemporaines, même si, évidemment, ni le vitruvianisme ni le droit romain ne sauraient à eux seuls résumer leurs disciplines respectives. J'en viens donc à cette question de la différence et de la distance autour de laquelle droit et architecture conspirent. On affirme habituellement que l'architecture, comme le droit, favorise le rassemblement des hommes, consolide les liens sociaux et renforce la vie communautaire. Il suffit de voir, à contrario, combien des constructions ou un urbanisme mal conçu, à l'exemple des banlieues, peuvent engendrer le chaos. Il me semble néanmoins que la question sociale, si j'ose dire, la question sociale de l'architecture est en réalité un peu plus compliquée. Si l'on s'attache à la description de l'origine de l'architecture que propose au livre 2 de son traité Vitruve, à la suite de Démocrite et de Lucrèce, on constate que le rassemblement des hommes et le vivre ensemble, ce que Vitruve appelle le convictus, sont bien antérieurs aux premiers édifices. C'est non pas la quête du clos et du couvert, non pas le besoin de sécurité et de protection contre les éléments naturels qui sont cause du rassemblement des hommes, mais la fascination du feu et sa promesse démiurgique. Anciennement, écrit Vitruve, les hommes naissaient dans les bois et dans les cavernes comme les bêtes. Mais un jour qu'un vent impétueux vint à pousser avec violence des arbres proches les uns contre les autres, ils se frottèrent alors si rudement que le feu y prit. La flamme étonna d'abord les témoins de la scène et les fit fuir. Mais ceux-ci, s'étant peu à peu rassurés, et ayant éprouvé, en s'approchant du feu, que sa douce chaleur était une chose agréable et commode, ils le nourrirent avec du bois qu'ils venaient de ramasser, et convièrent d'autres hommes à les rejoindre. Ainsi, conclut Vitruve, le feu donna l'occasion aux hommes de s'assembler, de faire société les uns avec les autres et d'habiter ensemble dans un même lieu. Il est donc clair, dans ce récit des origines de la société, que l'habiter vient en second. Et cette secondarité modifie radicalement le sens de l'habiter. Le but de l'architecture consiste alors non pas à rassembler les hommes, mais au contraire à ménager entre eux de l'espace pour en desserrer l'étouffante promiscuité et pour créer ainsi de la distance au sein de l'indifférenciation spatiale que produit la confusion sociale autour du foyer originaire. L'architecture est assurément un art de l'espace, mieux encore de l'espacement, car il ne suffit pas ici de circonscrire une aire par des murs, il s'agit de dilater l'espace, de l'augmenter pour lui donner toute son amplitude. Or, la recherche de l'espace est en réalité, par une singulière dialectique, une quête de ce qu'il y a de plus intime et de plus propre en chacun d'entre nous. Il faudrait expliquer ici, je n'en ai malheureusement pas le temps, combien Léon Baptiste Alberti est inspiré dans son De re edificatoria par l'hésychasme pétrarchien, c'est-à-dire par le culte du silence et de la solitude que recommande Pétrarque dans ses écrits moraux, et combien aussi l'urbanisme à l'âge humaniste et classique s'en trouve profondément marqué. Et il en va de même, me semble-t-il, du droit. Kant, dans sa doctrine du droit universel, qui dit autre chose, et des choses plus profondes, à mon avis, que sa philosophie de la volonté, censée pourtant former le soubassement métaphysique, Kant, donc, affirme que si la Terre était infiniment plate et que les hommes puissent ainsi se disperser sans contrainte, il n'y aurait nul besoin d'instaurer le droit de propriété. Mais, parce que la Terre est ronde et qu'en outre la nature a horreur du vide, les hommes ont au fait de se côtoyer et de se toucher, si bien que, pour éviter la guerre de tous contre tous, pour maintenir les hommes à distance respectueuse les uns par rapport aux autres, il est nécessaire de leur garantir la possession de leurs biens et en particulier de leurs terres. Et de fait, le droit de propriété tel que Kant le justifie d'une manière philosophique apparaît très fortement marqué par ce que Nietzsche appellera plus tard le pathos de la distance. Le but de Kant, nous le savons, consiste à libérer l'homme de l'emprise de la nature. À cette fin, il distingue clairement dans l'esprit du droit romain l'occupatio, la détention physique du bien, qu'il assimile à ce qu'il appelle une possessio phénoménon, une simple possession empirique et pragmatique, de la possessio noumenon, de la possession intelligible, qui à ses yeux est la seule véritable expression du droit de propriété. Cette intelligibilité de la possession n'a rien d'intellectuel. La possession intelligible exprime simplement la possession du propriétaire absent qui n'a pas de contact direct, physique, naturel avec son bien. L'absence locale du propriétaire, qui correspond au faire-valoir indirect, ou encore la distance temporelle que représente pour le propriétaire la constitution et la transmission de son bien en héritage. Cette distance locale et temporelle témoigne chez Kant de la liberté du possédant par rapport à son bien et par là même justifie son droit de propriété. En réalité, la distinction kantienne entre les deux possessions ne fait que traduire philosophiquement la distinction fondamentale du droit romain et plus précisément du droit quiritaire de la propriété, que la tradition juridique formule comme « jus utendi et abutendi », où il faut comprendre l'abusus non pas comme un abus, comme un usage intensif et excessif, mais au contraire, ainsi que le réclame l'étymologie, « ab usus », comme le suspens même de l'usage. On pourrait aussi, pour illustrer cette fonction juridique de la mise à distance, évoquer la prohibition universelle de l'inceste qui joue un rôle fondamental dans la constitution des civilisations. Ce type d'interdit ne comporte en réalité rien de sexuel ou de moral. Il exprime avant tout l'esprit du droit. Il s'agit d'assurer la clarté de l'état civil et d'éviter la confusion des personnes juridiques dans la famille, d'empêcher par exemple qu'une fille soit aussi la sœur de sa mère ou la petite-fille de son père. La prohibition de l'inceste est la condition de l'identité des places dans la famille, dans la société, de leur non-confusion sans laquelle rien ne saurait se transmettre à travers le temps. Et on retrouve la question de l'adoption, de l'ordre naturel de l'adoption que vous évoquiez. Si l'architecture et le droit permettent ainsi de ménager avec art de la distance dans le tissu social, c'est parce que l'une et l'autre sont, à mon sens, des savoirs de la différence. Revenons de nouveau au discours vitruvien sur l'origine de la société. Une fois rassemblés autour du feu primordial, les hommes se mirent donc à confectionner des habits grossiers de formes diverses selon les peuples, ce qu'on appelle la cabane primitive. Or, on aurait tort de voir dans la cabane primitive, à l'exemple de Rousseau, l'origine de l'architecture. Les commentateurs humanistes et classiques du Vitruve affirment que si la cabane primitive est bien à l'origine de la fabrica ou de l'aedificatio, c'est-à-dire de la construction et de l'industrie du bâtiment, elle ne saurait l'être de la science architecturale proprement dite qui, elle, n'a d'autre origine que l'intelligence du projet, c'est-à-dire un certain mode universel et naturel du raisonnement poétique que les Grecs découvrirent en parallèle avec la philosophie. Il existe donc une différence entre le chantier soumis au savoir-faire empirique, aux traditions constructives vernaculaires, aux typologies régionales, et le projet qui consiste au contraire à arracher le chantier à sa routine pour faire d'un simple agrégat de pierre et de bois une œuvre d'art. Et c'est pourquoi Vitruve assimile l'architecte à un juge, au juge des ouvriers du chantier qui non seulement juge, qui non seulement contrôle leur aptitude à réaliser son projet, mais qui à cette fin se voit amené à modifier la nature même de leur technique et de leurs gestes, de sorte que le chantier rentre en différence avec lui-même. L'architecture, écrit Vitruve, est une science dont le jugement certifie conforme au projet les ouvrages de tous les ouvriers présents sur le chantier. Il me semble que cette structure différentielle du chantier et du projet, de la fabrica et de la ratiocination, selon les termes mêmes de Vitruve, a quelque chose d'éminemment juridique et rappelle la différence constitutive du droit entre le fait et le droit, ici entre le fait du chantier et l'ordre du projet. Une différence que la distinction kantienne entre la possession sensible et la possession intelligible illustre si clairement que l'on comprend que le droit de propriété soit le droit par excellence, celui qui manifeste immédiatement l'essence du droit, précisément comme jeu de la différence entre l'état de fait et l'état de droit. J'aimerais consacrer le temps qui me reste à présenter deux exemples d'étroite collaboration entre le droit et l'architecture dans l'œuvre de la civilisation. Un exemple de droit civil, et nous examinerons à nouveau la question incontournable du droit de propriété, puis un exemple de droit public qui portera sur l'organisation institutionnelle de la cité romaine. Commençons par le premier exemple. Il existe entre théologiens franciscains et théologiens dominicains un différent métaphysique sur le droit de propriété. Les franciscains jugent que Dieu seul possède le dominium sur le monde, précisément parce qu'il en est le créateur, tandis que les hommes n'en ont que l'usufruit. Ce que les dominicains, par la voix de saint Thomas d'Aquin, reconnaissent volontiers, mais en précisant que l'homme, à partir du moment où il procède à l'égard de la création, à une super additio rationis, selon la formule de saint Thomas, à une surédification de la raison, peut accéder lui aussi au dominium, un dominium second par rapport au dominium premier de Dieu, un dominium qui naît précisément de la différence qui existe entre l'homme et le reste de la création. Je défends la thèse que les villas de Palladio sont, par l'intelligence même de leur projet, une illustration de cette surédification de la raison de l'homme sur le fond de la nature qui justifie la propriété. Davantage encore, j'affirme que leur fonction principale dans l'ambiance politique de la République de Venise au Cinquecento consiste précisément à démontrer la validité et l'effectivité du droit romain de la propriété, ce qui mérite une courte explication historique. On sait que les commanditaires des villas palladiennes forment un groupe très homogène d'aristocrates de terre ferme et de patriciens vénitiens, étroitement liés soit à la curie pontificale, soit à la cour impériale, aux grands pouvoirs universels. Ce groupe réclame, mais en vain de la Sérénissime, l'intégration du code justinien à ses sources de droit. Or, faute d'obtenir cette modernisation du droit par rapport à la coutume vénitienne, ce groupe essaye de démontrer, d'une façon à la fois intellectuelle et poétique, la validité théorique du droit romain de la propriété par la médiation de l'architecture. En témoigne l'inscription qui orne les quatre frontons de la Rotonda à Vicence. La villa est dédiée à Marius Capra, qui, je traduis l'inscription latine, soumis au rang très étroit de la primogéniture, les champs, les vallons, les collines sises en deçà la grande route, faisant graver cette inscription pendant qu'il soutient et qu'il s'abstient. Soustinet ac abstinet, fameuse formule stoïcienne qui, à mon sens, explique bien la distinction romaine entre l'usus, le soustinet, et l'abusus, l'abstinet, ou encore la distinction kantienne, mais c'est la même, entre la possession sensible et la possession intelligible. Il reste, dans notre droit positif, une trace de cette fonction appropriante du fond par l'édifice, dans le code de la chasse. Le gibier est habituellement considéré par le droit comme res nullius, comme des choses qui n'appartiennent à personne, ce qui justifie les règlements rigoureux qu'impose la puissance publique à son prélèvement. Mais il suffit d'enclore le terrain de chasse et surtout d'y élever un édifice pour que le gibier soit reconnu comme un bien privé appartenant au détenteur du terrain, ce qui exempte celui-ci de la plupart des contraintes de prélèvement. Nous allons maintenant aborder la place de l'architecture dans le droit public. Il existe, à mon sens, deux façons de concevoir la cité antique. À la façon de la mythologie ou de la philosophie grecque, qui identifie la cité à un tout organique, traversé par un pneuma ou un feu, le feu du foyer, de la déesse Hestia, semblable au feu originaire et rassembleur qu'évoque Vitruve, mais ici magnifié et déifié, ou au contraire, à la façon du droit romain, qui conçoit la cité non pas comme un foyer, mais comme une architecture institutionnelle, c'est-à-dire comme un corps composé d'éléments distants, selon la définition stoïcienne, ce que l'architecture conçoit sous le terme de la collocatio, et qui prend en droit la forme d'un montage de fonctions et d'offices organisé selon les grandes divisions institutionnelles romaines entre le privé et le public, le civil et le militaire, le laïc et le sacré. Un montage qui constitue une architecture de place habitée par le jeu d'une subrogation permanente qui pourrait même subsister tel un théâtre vide en l'absence de sujet pour le remplir. Comme si l'institution, l'office, n'avait pas besoin de substrat, c'est-à-dire de détenteur, pour rester opérationnel. À cette architecture institutionnelle correspond bien l'urbanisme classique, qui est en quelque sorte le substrat de cet ordre sans substrat, selon un isomorphisme quasi-parfait entre la disposition spatiale et l'ordre juridique, comme en témoigne par exemple au livre 4 et 5 du De Re Aedificatoria, la typologie albertienne des bâtiments qui suit scrupuleusement les divisions institutionnelles romaines. Isomorphisme que renforce en outre le maître mot de l'architecture classique, le décor ou convenance, qui attribue à chaque édifice les ornements conformes à la nature de sa fonction et à la dignité de son destinataire. Qu'apporte finalement au droit l'approche architecturale? Que signifie pour le droit cette vue d'ailleurs que l'Académie des sciences morales et politiques nous autorise aujourd'hui d'envisager. La philosophie du droit souffre souvent d'un excès, tantôt de transcendance, tantôt d'immanence. Soit le droit est référé à une instance supérieure et absolue, qui seule lui donnerait son sens, Dieu, la nature, l'homme avec un grand H, soit au contraire il est considéré comme un simple instrument au service de l'utilité économique, sociale et politique. Dans les deux cas, le droit est aliéné. Or, il me semble que l'approche architecturale du droit lui ménage la possibilité d'échapper à cette antinomie aliénante. Le jeu de la distance et de la différence permet au droit de prendre du recul par rapport au champ d'immanence de la pratique sociale, mais lui permet aussi d'instaurer et de donner sens à la société sans pour autant se référer à une instance extérieure et transcendante. Le droit appartient à ce que le néoplatonisme appelait le diakosmos et la Renaissance le monde moyen. Monde intermédiaire entre d'une part le chaos de la nature, aujourd'hui de la nature sociale, et d'autre part le monde des archétypes non moins insaisissable et immaîtrisable que le chaos. Le droit, comme l'architecture, assure face au chaos un ordre constant, régulier, sûr et prévisible, sans pour autant chercher à se substituer aux principes absents. Le droit forme ainsi une arche qui, à son tour, nous permet de comprendre autrement l'étymologie de l'architecture. Il faut entendre dans le terme architecture non plus seulement le principe de la construction selon l'étymologie grecque, mais la construction de l'arche, comme si nous passions de l'arché grec à l'arca romaine. Car pour l'architecture, comme pour le droit, il s'agit bien, selon Quatremère de Quincy, l'illustre secrétaire de l'Académie des Beaux-Arts, j'ouvre les guillemets, d'assurer la propriété des hommes et de ne travailler que pour la sûreté, le repos et le bon ordre de la vie civile. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Jean Caille, directeur au CNRS, faisant une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 7 janvier 2008. Le sujet était « Droit et architecture, savoir de la différence, art de la distance ».